RFI 5 heures à Paris, 3 heures en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour à la une de ce mercredi 1er mai, des manifestations dans plusieurs pays à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs en France, notamment la guerre dans la bande de Gaza suspendue à la proposition de cesser le feu étudiée en ce moment par le Hamas, suspendue aussi au lancement d'une opération militaire renforcée de l'État hébreu sur la ville de Rafah. Et puis on revient aussi dans ce journal sur la fin hier de la visite officielle en France du président de RDC Félix Tshisekedi. Récit à suivre. Comme chaque 1er mai en France, ce mercredi est un jour de manifestation à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Des cortèges sont prévus dans la plupart des villes du pays. Journée célébrée, fériée même dans de nombreux pays, le 1er mai, censé rendre hommage à la lutte des travailleurs pour leurs droits. L'an dernier en France, à cette même date, c'est la réforme des retraites voulue par le gouvernement qui cristallisait la colère des travailleurs. Projet de loi validé entre-temps, mais pour s'unir face à cette réforme à l'époque, les différents syndicats avaient appelé à manifester côte à côte. Un an plus tard, on fait le point sur ce qu'il reste de cette union sacrée avec Nathanaël Vitron.
Il faut cesser la stigmatisation populiste des chômeurs. La tribune date du 18 mars dernier. Elle est signée par les dirigeants des 5 plus grands syndicats français. Pour Karel Lyon, sociologue, chercheur à l'IDHES de Nanterre, c'est une preuve que l'échec du mouvement contre la réforme des retraites n'a pas tué l'unité syndicale.
On avait coutume d'opposer un pôle dit contestataire à un autre dit réformiste. Et l'effet principal du mouvement des retraites, c'est d'avoir un petit peu relativisé ces oppositions entre sensibilités syndicales. Puis l'intersyndicale, elle a continué d'exister. Pour la première fois, l'UNSA et la CFDT ont été parties prenantes, par exemple, de la grève féministe du 8 mars dernier.
En cette année électorale, les syndicats parlent aussi d'une seule voix pour désigner un même danger.
L'extrême droite est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses.
La CFDT, elle a toujours été claire. On ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat.
Karel Lyon.
Quand le mouvement syndical avance uni et met au premier plan les questions sociales, les débats nauséabonds sur l'immigration, tous les discours racistes sont complètement invisibilisés.
Outre les questions sociales, celles des salaires, l'arrivée à la tête des syndicats d'une nouvelle génération, plus jeune, plus féminine, a aussi permis de mettre l'accent sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, celle de la transition écologique, autant de nouveaux vecteurs de l'unité syndicale.
Nathanaël Vitran, et je vous le disais, la célébration des travailleurs aujourd'hui concerne de nombreux pays. En Afrique de l'Ouest, par exemple, au Sénégal, une manifestation est prévu en Turquie pour prévenir toute tentative de mobilisation. Aujourd'hui, place Taksim à Istanbul. Les abords de ce lieu très symbolique ont été bouclés. La place Taksim, au lieu d'un mouvement de contestation contre le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2013, plus de 42 000 policiers seront déployés ce mercredi dans la ville. Manifestation en Géorgie, mais pour un tout autre sujet. Après les pour lundi, les contre se sont à nouveau rassemblés hier à Tbilissi, contre le projet de loi discuté en ce moment au Parlement géorgien sur l'influence étrangère. Ce mardi soir, ils étaient des milliers à manifester contre ce texte qualifié de liberticide, manifestation à laquelle les forces de l'ordre ont répondu par la force des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Plusieurs journalistes ont été frappés. Un député issu du principal parti d'opposition a été blessé. Le défenseur des droits géorgien a demandé l'ouverture d'une enquête pour usage disproportionné de la force. Le Hamas continue d'étudier à ce jour la contre-proposition israélienne pour un cessez-le-feu de 40 jours dans la bande de Gaza et un échange entre prisonniers palestiniens et otages israéliens retenus depuis le 7 octobre. Anthony Blinken, en visite hier en Israël puis en Jordanie, a appelé le Hamas à accepter sans plus tarder cette proposition. Le chef de la diplomatie américaine qui va rencontrer Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Hier, le Premier ministre israélien a une fois de plus évoqué la perspective d'une opération renforcée à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, écartant l'idée de stopper la guerre. « Nous allons entrer dans Rafah », a-t-il déclaré, et y éliminer les bataillons du Hamas avec ou sans accord de trêve afin d'obtenir une victoire totale. Fin de citation. Cette guerre entre Israël et le Hamas et ses répercussions sur le Liban voisin, les échanges de tirs sont réguliers entre l'État hébreu et le Hezbollah, puissant parti chiite libanais. Selon un bilan fourni par deux deux centres de recherche libanais. Depuis le début de ces affrontements, il y a eu 438 morts et 275 blessés, sans oublier de nombreuses pertes matérielles. Paul Khalife.
100 civils, 337 combattants du Hezbollah et un soldat libanais ont été tués en 7 mois d'affrontements à la frontière entre le Liban et Israël. Parmi les civils figurent 3 journalistes et une vingtaine de secouristes et d'ambulanciers. 45 localités proches de la frontière sont quotidiennement sous le feu de l'aviation et de l'artillerie israélienne. 12 d'entre elles ont subi des destructions considérables, selon le Centre national de recherche scientifique du secteur public et le Centre international d'information du privé. 1700 maisons ont été entièrement rasées, 1500 partiellement détruites et 4100 ont été endommagées. Les combats ont poussé plus de 90 000 habitants à fuir leur foyer dans la zone frontalière. Les images satellites visionnées par les experts du Centre national de recherche scientifique montrent que 1060 hectares sont partis en fumée sous l'effet des munitions incendiaires et du phosphore blanc utilisés par l'armée israélienne. 50 hectares d'oliviers et des centaines d'hectares de chênes ont été réduits en cendres. La saison de la cueillette des olives et la récolte du tabac ont été perdues cette année. Le Centre international d'information estime les pertes économiques totales à 1,6 milliard de dollars. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Et toujours dans ce même contexte, les mobilisations pro-palestiniennes continuent dans les facultés américaines. Ces dernières heures, la police de New York est intervenue sur le campus de l'université de Columbia où des étudiants s'étaient barricadés dans un bâtiment. La présidente de Columbia a demandé une présence policière sur place jusqu'au 17 mai. RFI 5h07 à Paris où s'est achevée hier la visite officielle de Félix Tshisekedi, le président de République démocratique du Congo, a assisté à une table ronde sur les affaires et les investissements en RDC, l'occasion d'échanges et de contacts entre une cinquantaine d'entreprises congolaises et une centaine d'entreprises françaises. Et tout a commencé hier, Claire Fache, par une gaffe du président du comité Afrique du MEDEF, la principale organisation patronale française.
Monsieur le président de la République du Congo.
Non, démocratique du Congo.
Pardon, sinon, je démarre mal, si... monsieur le président.
Philippe Labonne se rattrape vite en rappelant qu'Africa Global Logistics, dont il est le PDG, est présente sur tout le territoire de la RDC, avant de présenter les principaux thèmes du forum.
Nous souhaitons que les discussions qui auront lieu permettent d'aborder le cadre des affaires en République démocratique du Congo et d'éclairer les entreprises sur les engagements qui garantissent leurs investissements futurs dans ce pays.
Le climat des affaires, donc, au menu, et les secteurs prioritaires, mines, énergie, infrastructures et villes durables, où les entreprises françaises sont invitées à investir plus et à collaborer avec les entreprises congolaises, dont Robert Malumba préside la fédération, l'AFEC.
Le MEDEF et l'AFEC peuvent offrir à leurs membres des opportunités uniques de collaboration, d'échange, de bonnes pratiques, de développement de nouveaux marchés et des renforcements des capacités.
Le nouvel élan des relations économiques France-RDC doit être amplifié, souligne de son côté la secrétaire d'État chargée du développement, Chrysoula Zakharopoulou, cite en exemple le protocole d'accord avec Alstom pour le métro transurbain de Kinshasa et le partenariat du BRGM avec la GKMine, l'entreprise minière nationale congolaise.
Claire Fage, et hier toujours suite à un entretien avec Emmanuel Macron, les deux dirigeants ont pris la parole concernant les violences dans l'Est de la RDC. Le président français a notamment appelé le Rwanda a cessé tout soutien aux rebelles du M23 et a retiré ses forces du pays. Ils se retrouveront pour d'ultimes négociations en Corée du Sud. Toujours pas de futur traité mondial contre la pollution plastique à l'issue d'un rassemblement et de discussions à Ottawa, au Canada. Alors même sans traité, que retenir de ces discussions? Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publiques à la Fondation Tara Océan, a observé ces discussions.
Cet objectif de 40% de réduction d'ici 2040 qui est posé par le Pérou et le Rwanda, c'est sur le plastique vierge. C'est vraiment le cœur de l'enjeu. C'est la seule façon que l'on connaisse de réduire la pollution plastique dans tous ses aspects, hein, ses aspects de réchauffement climatique, de toxicité, de déchets. Le reste suivra la réduction des usages, la réduction des objets inutiles. Et puis, il y a un grand travail également à faire pour définir quels sont les plastiques les plus problématiques, quels sont les additifs chimiques les plus problématiques qui devront également faire l'objet d'un accord en matière de restriction.
Est-ce que vous sentez à l'issue de cette session que un accord, un rapprochement peut être possible, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'opposition entre les pays?
Il y a deux blocs qui sont toujours très cristallisés, ils ont assez peu de chances de se rapprocher parce que les intérêts représentés sont très divergents, hein, sont les intérêts des débouchés du pétrole. Néanmoins, le groupe d'opposants au traité, il s'amenuise. On voit qu'on a de plus en plus de pays qui ont une position intermédiaire, un peu moins radicale qu'elle ne l'était lors des dernières sessions.
Henri Bourgeois-Costa, il répondait à Pauline Glaise, RFI 5h10 à Paris.